Voilà, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Vous connaissez tout ce texte. Tous les chrétiens ont lu ce texte. Tous. Tous les chrétiens ont été bénis par ce texte. Je l'ai pris volontairement pour que nous nous souvenions combien Dieu a été bon de nous parler. Vous avez envie que Dieu vous parle ? Il y a des textes que Dieu a vraiment utilisés pour nous parler. Vous êtes tous d'accord ? Il y a des textes, c'est flagrant, Dieu vous a parlé. Il y a des textes, Dieu ne vous a pas encore parlé, peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus difficiles, parce qu'ils ne vous intéressent pas forcément, vous n'avez pas compris que derrière, il y avait un enseignement à recevoir. Par exemple, Jean chapitre 14, verset 1 à verset 6, c'est un texte où Dieu nous a tous parlé. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi ? Parce que bien, de temps en temps, nous sommes troublés. Ça vous arrive d'être troublé ?
Oui.
Oui, bon. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ce texte vous a béni, vous a fortifié, vous a communiqué énormément d'espérance. Vous croyez que ces choses sont vraies. Vous voyez la beauté de ce texte. J'introduis volontairement avec un texte très connu, un texte qui nous a donné beaucoup d'espoir, pour vous amener un petit peu plus loin dans ma réflexion. Nous allons aller dans le psaume 91, et je voudrais que nous allions déjà un petit peu plus loin. Là, nous entrons dans le domaine de la confiance. Là, on vient de lire un texte qui parle d'expérience. Nous allons dans un texte qui nous parle d'espérance et puis de la façon dont on parle à Dieu. Qu'est-ce que nous disons au Seigneur ? Psaume 91. Vous connaissez ce texte, j'ai pris celui-ci. Je n'avais que l'embarras du choix par rapport à ce cas de figure. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, je relis, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, mes frères et sœurs, que dites-vous à Dieu ? Que lui dites-vous ? Cette semaine, que lui avez-vous dit ? Là, en ce moment même, là, à l'heure, à l'instant T, aujourd'hui, 29 décembre 2013, que dites-vous à Dieu ? Que lui disiez-vous ? On a exprimé cette difficulté que nos mots ne correspondent pas forcément. Quand on dit à Jésus « je t'aime », ça représente quelque chose. Quand vous dites à votre conjoint « je t'aime » ou à un de vos enfants « je t'aime », c'est profond également. Mais quand on le dit à Dieu, ça n'a pas du tout la même façon. Quand vous dites à quelqu'un « merci, tiens, tu m'as amené des oranges, merci ». Mais quand vous dites à Dieu « merci pour le salut », c'est le même mot, mais en vérité, c'est pas le même mot. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça représente quelque chose de plus profond. Et nous voyons, un premier texte qui nous parle vraiment de cette espérance extraordinaire. Ce deuxième texte nous interpelle. Et comment nous parlons à Dieu ? Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel mon refuge. Est-ce que vous pouvez le dire ça au Seigneur ? Tu es vraiment mon refuge. Tu es vraiment ma forteresse. Je suis réfugié. Vous avez vu comment on est bien là, dans un local ? Comment notre corps est bien dans un local, bien chauffé, quand on est bien assis, bien habillé. Est-ce qu'on est bien ? Est-ce que vous aimez bichonner votre corps ? Et répondez-moi. Est-ce que vous aimez bichonner votre corps ? Ben oui. Est-ce que vous aimez que le soir être bien chauffé ? Est-ce que vous aimez un bon feu de cheminée, si vous en avez une ? Est-ce que vous aimez bichonner votre corps ? Il y a des gens, ils prennent soin de leur corps, c'est incroyable. Mais ils ne prennent pas soin de leur âme. Et ils sont tout le temps en souffrance, et ils peuvent dire des choses qui ne représentent pas ce qui est vraiment la vérité. Quand on voit le psalmiste dire « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse », ça exprime vraiment la relation qu'il a entretenue, qu'il entretient avec Dieu. Et ça produit vraiment de l'assurance. Vous avez vu le monde dans lequel nous sommes ? Non mais on est dans un monde de malades, vous êtes d'accord avec moi ? On est dans un monde pervers, corrompu, enténébré, souillé, etc. Je pourrais multiplier, hélas, les adjectifs pour que nous comprenions vraiment bien le monde dans lequel nous sommes. Et pourtant, nous avons un Dieu qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. C'est la fin de l'année, ou presque. Est-ce que vous êtes heureux d'être resté fidèle à Dieu? Est-ce que vous savez que beaucoup de frères ont rétrogradé? C'est écrit, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il n'y a pas besoin de rappeler les prophéties pour réaliser ce que le Seigneur a voulu que nous comprenions. Mais nous devons vivre certaines choses avec Dieu. Les textes qui nous donnent de l'espérance, c'est extraordinaire. J'avais envie ce matin presque que de prendre que des textes sur l'espérance, du style Jean 14, verset 1 à 6, pour que nous comprenions bien toutes les fois où le Seigneur a voulu nous parler, pour que nous soyons en paix, en sécurité, que nous ayons de l'assurance. Il y a des chrétiens qui ont peur du lendemain. Alors, c'est vrai. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois un chrétien qui a peur du lendemain. Alors que Jésus a dit, n'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que vous croyez que Dieu pourvoira demain? Bien oui. Il s'appelle Jéhovah Jiré. Et tout ça, je vous l'introduis pour aller un petit peu plus loin, vous allez voir. Mais il y a des chrétiens qui ont peur. Parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Dieu voulait leur dire. Ils n'ont pas compris la promesse. Quand Jésus a dit aux chrétiens que votre cœur ne se trouble pas, c'était un encouragement, pour moi c'est une exhortation, pour moi c'est même un commandement. C'est pour ça que c'est important de considérer certaines exhortations comme des commandements. Ça vous oblige à prendre position, à dire mais non, je refuse de me troubler parce que le Seigneur a promis qu'il prendrait soin de nous. Mais comment terminez-vous cette année? Comment l'avez-vous vécu? Est-ce que nous pouvons faire un bilan? C'est peut-être pas le moment, mais enfin, comment avons-nous vécu cette année? Avons-nous fait des progrès? Avons-nous été amené à réaliser dans nos épreuves ou dans nos joies, comme il était important de faire des progrès. Alors je voudrais vous amener maintenant à lire notre psaume. Je pensais partager avec vous le psaume 92 qu'on vient de lire, mais je voudrais lire le psaume 95. Je voudrais que nous le lisions. Peut-être vous l'avez lu 100 fois, c'est possible. Alors ce titre, moi, vous avez une Bible avec des titres? Est-ce que vos Bibles ont des titres? Qu'est-ce que vous avez comme titre dans ce psaume 95? Pardon? Invitation à l'adoration? Je n'entends pas, madame. Puissance et majesté de l'Éternel, qu'est-ce que vous avez comme titre? Rien?
Oui, madame de Lavre, pas de titre, c'est psaume.
Moi, j'ai aussi exhortation à l'adoration. Lisons-le. Regardons, il y a trois choses dans ce psaume. Ce n'est pas qu'une exhortation à l'adoration. C'est pas parce que les titres ne sont pas forcément inspirés, attention. Hein. Les titres que les auteurs ou les traducteurs ont mis ne sont pas forcément inspirés. Bien sûr que là, il y a une partie inspirée, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Voilà, si ça s'arrêtait là, ça ne serait qu'une exhortation à la louange. Mais ce n'est pas fini. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Vous voyez que ce psaume n'est pas qu'une exhortation à la louange. Les 6 premiers versets, oui, sont une exhortation à la louange. Il y a une exhortation à la louange, ce que Jérôme a fait lorsqu'il a présenté les chants, pour nous amener à réaliser que notre salut devait nous amener à parler à Dieu avec beaucoup de grâce et de reconnaissance. Nous sommes heureux d'être sauvés. Un chrétien, il ne peut pas ne pas louer Dieu. Il a besoin de le louer pour la joie du salut. Si vous ne louez pas Dieu, parce qu'il y a un problème au niveau de votre salut. On a besoin de le louer, oui ou non? C'est quelque chose d'incontournable. Quelqu'un qui est sauvé, il a besoin de dire merci au Seigneur pour le salut de son âme. Ce psaume indique l'exhortation à louer. Mais ce psaume exhorte aussi à l'obéissance. Et il peut y avoir ce dilemme dans la vie d'un chrétien. Il y a la grâce de louer Dieu, mais il n'y a pas la conscience et l'importance d'obéir à Dieu. Et ce psaume, vous voyez, tous ces titres ne sont pas juste, ne vous fiez pas, bon, ce n'est pas grave le titre. Mais en fait, pour moi, le psaume 95, ce n'est pas une exhortation à l'adoration. C'est une exhortation à l'adoration et à l'obéissance. Car vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers, entre guillemets, la louange. Et ce psaume est partagé en deux, donc par ce texte, cette exhortation, cet avertissement, « Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix ». Donc la louange, c'est quelque chose qui doit être réglé dans le cœur d'une église. Dans une église, on ne doit pas poser la question, tiens, pourquoi chantez-vous? Pourquoi y a-t-il des gens qui élèvent la voix à haute voix? D'autres le font intérieurement. Moi, je pense que c'est bien qu'on le fasse à haute voix, mais je pense que ce qu'il faut, il faut le faire de tout son cœur. C'est pas parce que quelqu'un prie pas à haute voix qu'il est pas spirituel. Voilà, je l'ai entendu ça une fois, moi j'ai trouvé ça déplacé. La personne n'est pas spirituelle, plus spirituelle, parce qu'elle loue Dieu à haute voix. Et une personne qui ne louerait pas à haute voix, ah, elle est moins spirituelle. Ça, c'est ridicule comme tout. Mais on doit louer le Seigneur. Est-ce que vous louez le Seigneur? Vous qui n'avez pas élevé la voix ce matin, est-ce que vous avez loué le Dieu dans votre cœur? Eh bien oui, je pense. Vous êtes là, vous êtes venus pour cela. Nos cultes s'appellent les cultes d'adoration parce qu'on éprouve, on a besoin de le remercier. Vous avez vu comment ça nous énerve, les gens qui ne sont pas reconnaissants, les enfants qui ne disent pas merci. Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Quoi? Vous avez vu les gosses qui ne sont pas reconnaissants? Moi, ça a tendance à me. Donc, la louange, c'est important. Une église doit louer Dieu. Moi, j'aime quand on commence, moi j'aime les cantiques où on se remet en question, mais j'aime quand on commence un culte, n'importe quel réunion d'ailleurs, avec un cantique où on remercie Dieu pour le salut de son âme. Moi, j'aime qu'on commence une réunion avec la joie du salut, même si tous les autres cantiques sont des cantiques profonds de recueillement où la joie est absente, ça m'est égal. Mais j'aime que le premier, bon, c'est une façon de parler, j'aime qu'il y ait au moins un cantique qui exprime la joie du salut. Donc, l'adoration, la reconnaissance, la louange, c'est quelque chose qui doit être réglé dès qu'une personne passe par la repentance et par la conversion. Mais, vous avez vu que la fin de ce psaume nous exhorte vraiment à l'obéissance. Parce que si l'adoration ne nous amène pas à l'obéissance, quelle sorte de chrétien sommes-nous? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien l'adoration, c'est bien la louange, c'est bien l'exaltation, mais sérieusement, si nous en restions là et que nous ne soyons pas amenés à cause de cette adoration, grâce à cette adoration qui nous approche de Dieu, quand on adore, on est conscient de ce que Dieu est. Vous avez lu avec moi le psaume, peut-être vous avez toujours votre Bible ouverte, le rocher de notre salut, l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Ces textes nous parlent que Dieu est grand. Vous le croyez que Dieu est grand? Mais cette adoration, si elle ne nous amène pas à obéir à Dieu, c'est la preuve que nous sommes aveugles, c'est la preuve que nous sommes tombés dans le rituel, dans le train-train, dans le religieux, comme vous voudrez. Et ça, ça ne fait pas l'affaire du royaume de Dieu. Nous passons à côté de quelque chose. Et je le dis pour le dire, parce que ça, c'est bien d'être dit. Je connais des personnes qui m'ont dit, nous, dans notre église, il n'y a que des chants, il n'y a pas de prédication. Il y a de moins en moins de prédications. On ne prend plus la Sainte-Seine, tout est fait dans la louange, c'est formidable, Jésus est notre sauveur, on ne fait que le louer. Bon, moi je ne suis pas d'accord, bien entendu. Si je le dis, c'est parce que je ne suis pas d'accord, et je ne dis pas pour critiquer tel mouvement, je le dis parce que je suis persuadé que l'on passe à côté de quelque chose lorsqu'on amène les gens qu'à la louange, alors que rien que la lecture de ce psaume, quand on le prend avec un peu de considération, nous montre bien qu'il n'y a pas que la louange. Il y a l'importance d'obéir, l'importance d'être attentif à la voix du Seigneur. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Car 365 jours sont composés de... Une année est composée de 365 compartiments de journées. Et bien sûr que nous, on est là, dans le passé, ou alors dans l'avenir, on fait des trucs à long terme. C'est bien d'avoir des projets. Moi, j'ai quelques projets. Je pense que tous, on a plus ou moins quelques projets. Mais le problème, il n'est pas là-dedans. Le problème, il est aujourd'hui. Aujourd'hui, 29 décembre, est-ce que je veux... Vraiment, est-ce que, parce que c'est le mot pouvoir, vous avez vu, au verset, à la fin du verset 7, aussi vous pouviez, vous avez la preuve par ce verbe, que c'est une question de volonté, c'est pas une question de sentiment, oh, j'aimerais bien obéir, quand ça ira mieux, quand je serai, bien, ça y est, quand je serai sorti de tous ces trucs. Moi, tous les gens qui me parlent comme ça, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, ne font rien dans le royaume de Dieu, parce qu'ils vivent de rêves, ils vivent de spéculations. La Bible dit, c'est aujourd'hui. C'est très facile à comprendre par rapport au salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pour le salut, on sait que c'est urgent. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle à des gens, on a même des fois envie de leur dire, mais tu sais pas, si tu meurs demain, ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de dire à des gens, mais tu sais pas si tu meurs demain. Ce qui est déjà arrivé. C'est pas déjà arrivé que vous parliez à des gens et quelques semaines après, ils sont morts? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est souvent arrivé, je peux vous le dire. Donc, pour le salut, c'est quelque chose qui est réglé. On sait très bien que pour le salut, aujourd'hui, il ne faut pas endurcir son cœur. Si Dieu nous parle aujourd'hui, il ne faut pas endurcir son cœur. Moi, quand quelqu'un me dit, priez pour moi pour que je me convertisse, je dis, non, je ne prie pas pour vous, je dis, convertissez-vous. Parce que c'est un piège, presque, de dire aux gens, ben, on va prier pour que vous vous convertissiez, et le gars, il attend que ça lui tombe dessus. La conversion, c'est un choix. C'est une décision, je choisis de donner mon cœur au Seigneur. Tu as pleuré, toi, quand tu t'es converti? Ah oui, j'ai pleuré, ah, c'est bien, t'as pleuré. Et toi, t'as pleuré? Non, ah, tu t'es pas bien converti. Oui, c'est... Mais c'est pour vous dire comment les gens vivent dans le sentimental. Moi, j'ai pas pleuré le jour de ma conversion. Je peux vous dire, intérieurement, oui. Mais j'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur. Vous le croyez, j'espère. Bon. Donc, vous avez affaire à quelqu'un de converti. Mais c'est une décision de la volonté. Je choisis de donner mon cœur au Seigneur. Il y a des gens, oui, priez pour moi, monsieur Hugo, priez pour moi, j'arrive pas à me convertir. Je dis, mais c'est pas que vous n'arrivez pas, c'est que vous ne voulez pas vous convertir. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'honnêteté. Parce que moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Et ce texte-là qui nous incite à la louange, ce que l'Église doit absolument avoir compris, ce texte nous amène dans un deuxième temps à dire, mais aujourd'hui, 29 décembre, est-ce que je veux écouter Dieu? Je vous ai dit, je crois, dimanche dernier, ça m'a fait de la peine, parce que des fois je le dis d'une certaine façon dans la prédication, mais je vous avoue que quand j'exprime certaines choses, ça me fait de la peine. J'ai vu un gars qui a 50 ans de conversion me dire que la fornication, c'était pas grave. C'était pas grave. Moi, franchement, que quelqu'un qui est 3 mois de conversion se débatte un petit peu avec certains sujets bibliques, je le comprends. Et je crois qu'on n'a pas à juger. Et il faut laisser venir les gens au Seigneur. Laisser venir à moi, tout ça. Et je pense que c'est une grosse erreur que de dire à quelqu'un de suite, il te faut arrêter de fumer, il te faut arrêter de faire ci. Je crois que quand on découvre l'Évangile, ça se passe tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Autant c'est mauvais, mais quand quelqu'un a 50 ans de conversion, pour moi c'est la preuve qu'il y a beaucoup d'aujourd'hui qui sont passés et qu'on n'a pas voulu écouter la voix du Seigneur. On en est resté au stade de cette louange qui doit être joyeuse, qui doit être vraie. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'être sauvé. Vous le croyez? Moi, vous savez, quand j'aime me mettre à genoux, c'est pas important ça. Que vous soyez à genoux, assis, debout, ça n'a aucune importance. Mais je me sens vraiment riche. Vraiment riche. Parce que je me dis, mais si tu t'en vas, tu es prêt. Je ne suis pas prêt parce que je suis à genoux. Mais ça veut dire que je suis en communion avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, la louange, il n'y a rien de plus merveilleux. Mais je nous pose la question, parce qu'on est sous le regard de Dieu. Je pense qu'il y a eu ce temps de joie, de célébrer Dieu, ce temps de joie qu'il y aura tout à l'heure, parce qu'on va se retrouver dans la communion fraternelle. C'est bien de retrouver des frères et sœurs dans la communion fraternelle. Moi, je trouve que c'est merveilleux d'avoir des frères et sœurs. Ce temps de prendre la Sainte Cène, c'est un temps précieux. Mais aujourd'hui, hier, demain sera un autre aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne peut pas nous dire, mais est-ce que tu veux écouter ma voix? Je ne parle pas de lire un psaume vite fait. Je ne te parle pas d'écouter une prédication vite fait. Est-ce que tu veux entendre ma voix? Est-ce que tu veux vraiment? Car un texte comme on a lu en premier, un des textes, c'est comme le psaume 23. Je vais vous préparer une place, quand je m'en serai allé, je reviendrai. C'est des textes merveilleux, vous êtes toujours d'accord avec moi. Mais ces textes, certains chrétiens, ça leur fait plus rien. Quand vous leur dites, comme M. Blanc le rappelait intelligemment tout à l'heure dans l'introduction de la Sainte-Seine, mais lisez la Bible, vous serez prêts. Je crois qu'il y a des gens qui lisent la Bible qui ne sont pas prêts. Mais ceux qui lisent avec le cœur ouvert, ceux qui lisent avec ce souci de dire, Seigneur, parle-moi. Moi, je suis persuadé que si Dieu vous parle, vous n'aurez pas peur du lendemain. Oui ou non? Si Dieu vous parle, vous saurez que le lendemain aura soin de lui-même. Vous croyez qu'il faisait une blague, le Seigneur, le jour où il a dit ça? Ou est-ce que vous croyez que c'était parce qu'il savait qu'on en avait besoin? Oui. Alors, je le répète, c'est bien de réaliser que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est bien de réaliser qu'il a créé les cieux, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut te dire à toi, toi qui es là, qui écoutes? Vous savez que je n'aime pas tutoyer. Mais quand je le fais, c'est pour cibler encore plus. Mais qu'est-ce que Dieu veut te dire? Est-ce que cette semaine, tu as pris le temps de dire au Seigneur, parle, parle, ton serviteur, écoute. Vous connaissez ce jeune homme? Vous savez ce qu'il est devenu? Parce qu'on est là, Seigneur, parle-moi, mais montre-moi, Seigneur. Mais Dieu pouvait me dire, mais je ne peux pas te parler. Tu es comme une anguille, vous savez, les anguilles. Vous n'avez jamais essayé? Moi, j'ai essayé une fois d'attraper une anguille, je n'y suis pas arrivé. Bon, Dieu, il sait attraper les anguilles. Mais avouez que parfois, nous lui échappons. Et si Dieu, avec un soupir, parce qu'il y a un soupir, oh, c'est pas poétique, c'est profond, chaque mot est inspiré. Oh, si vous pouviez écouter sa voix, parce que les autres versets qui suivent, il a cherché un exemple, il n'a pas eu à chercher longtemps, ça c'est sûr, mais il a compris, il explique ce qui peut se passer, et le temps qu'on peut perdre, les années que l'on peut perdre, là il y a eu 40 ans, l'exemple est 40 ans de perdu, parce qu'on n'a pas voulu écouter sa voix, malgré les expériences extraordinaires qu'ils avaient pu faire. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre nous sommes dans le même cas de figure. Nous avons fait des expériences plus belles les unes que les autres, et nous en ferons d'autres, parce que je crois que Dieu nous bénira, même si on ne veut pas lui obéir. Est-ce que vous croyez que Dieu vous bénira, même si vous ne lui obéissez pas? Moi, je crois que Dieu peut nous bénir, que Dieu peut nous faire grâce et nous apporter sa tendresse. Bon, mais c'est dommage d'en rester là, comme un enfant qui sait que son papa va lui donner 10 euros, 15 euros, chaque fois qu'il en a besoin, parce que bon, ben, on est les parents et on le fait. Mais il n'y a aucune communion. Moi, il y a des enfants qui m'ont dit, moi, j'ai aucune communion avec mon père. Est-ce que ton père a pourvu? Oui, toute sa vie. Jamais j'ai manqué de rien. Mais j'ai aucune communion avec lui. Moi, j'ai vécu ça jusqu'à l'âge, jusqu'à ce que mon père se convertisse. Et pourtant, j'ai jamais manqué de rien à la maison. Et c'est dommage dans la vie humaine, mais c'est bien plus grave dans la vie spirituelle. Nous avons un Dieu qui pourvoira nos besoins, mais nous avons un Dieu qui nous dit, mais si tu pouvais t'arrêter, si tu pouvais écouter sa voix. Beaucoup de chrétiens sont agités, s'affolent, s'énervent, s'inquiètent, etc. Tournent en rond, c'est vraiment comme il s'appelait, à Caïn, qui a erré par tout le temps. Il y a des chrétiens, ils ont suivi la voix de Caïn. C'est écrit dans la Bible. Alors c'est bien d'être béni. Est-ce que vous avez eu à manger en 2013? Est-ce que vous avez eu à manger tous les jours? Est-ce que c'est une bénédiction d'avoir à manger tous les jours? Oui, c'est une bénédiction. Mais est-ce que nous l'avons écouté en 2013? Alors ne répondons pas, c'est quand même assez sérieux. C'est pas la peine que certains disent oui et que d'autres disent non. Mais quand même, ça vaut la peine de poser la question. Est-ce qu'en 2013, je l'ai écouté? Une année bénie, c'est bien. Mais une année bénie, je crois qu'elle est bénie si tous les jours, ou si on saute un jour, c'est pas grave. Mais au moins qu'on s'applique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'on a tous été blessés. Qui n'a jamais été déçu? Qui n'a jamais été blessé? Qui n'a jamais été découragé? Etc. Même par des amis, tout ça. Mais c'est normal. À partir du moment où on est confronté à des gens qui ne sont pas parfaits, on est obligé d'être déçu. Même par la personne qui a le maximum de qualité, c'est obligé. Ne vous offusquez pas parce qu'un pasteur, parce qu'un chrétien, parce qu'un ancien, parce que votre conjoint, parce qu'un de vos enfants, même qu'il aurait pris le baptême, vous a déçu. Oh, tu m'as déçu. Comme cette personne qui disait un jour à sa fille, oh, je t'aime plus, tu as eu de mauvaises notes. Et bien, heureusement que Dieu ne fait pas comme ça avec nous. Qu'on dise, j'apprécie pas que tu aies de mauvaises notes, je le comprends. Mais qu'on dise à quelqu'un qu'on ne l'aime plus parce qu'il a eu de mauvaises notes, moi je trouve que ce n'est pas intelligent. Heureusement que le Seigneur ne fait pas comme ça, chaque fois qu'on a de mauvaises notes. Heureusement. Mais il faut quand même que nous posions certaines questions. Qui nous parle? Qui écoutons-nous? Que faisons-nous? Parce que moi je pense, alors là je ne suis pas habilité pour ça, mais je pense qu'il y a des gens, il y a des chrétiens à qui Dieu ne parle pas, à qui Dieu ne peut pas parler. D'ailleurs vous connaissez ce texte, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons pas garde. C'est bien la preuve que beaucoup de gens devraient un mot, un seul mot, dire « Mais c'est vrai, que votre cœur ne se trouble pas. » La première phrase qu'on a lue ce matin, la première phrase, donc il y a déjà un quart d'heure, devrait suffire à quelqu'un de troubler. Vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un est troublé dans l'église, ça peut arriver. Un mauvais moment, une mauvaise semaine, les quatre ou cinq premiers mots, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Si votre cœur est ouvert, ça suffit. Ça suffit. Le Seigneur m'a parlé, il m'a rappelé que je ne dois pas me troubler. Pour peu que Dieu, dans sa bonté, ait utilisé un frère, une sœur pour vous le dire hier, vous savez très bien que c'est Dieu qui vous parle. Mais qui parle? Oui, nous le louons. Je vous ai tous entendu chanter. Quand on est devant, on entend tout le monde chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me dire, oui, oui, nous le louons. Oui, ce psaume porte comme titre exhortation à la louange, exhortation à l'adoration. Mais cette question... Ce soupir, cette peine que l'on perçoit du cœur du Seigneur, à savoir que nous n'utilisons pas notre volonté pour que vraiment Dieu nous parle. Parce que je suis persuadé que si tous les chrétiens écoutaient ce qu'ils ont à entendre, je pense que l'Église changerait. Quand je dis Église, toute l'Église changerait. Nous saurions à peu près tous ce que nous avons à faire dans l'Église. Oui ou non? Est-ce que nous savons ce que nous avons à faire? Répondez au Seigneur, l'année s'achève, une nouvelle va commencer. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je sais à quoi Dieu m'appelle. Je sais, bon, les choses générales qu'on doit tous faire. D'une manière générale, il y a des choses qu'on doit aimer. Aimer son prochain, est-ce qu'on a besoin d'une révélation pour savoir qu'il faut aimer son prochain? Est-ce qu'on a besoin d'une révélation pour savoir qu'il faut aimer sa femme? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une révélation ce matin? Ah bon, il faut que j'aime ma femme? Ah bon, il faut que je me soumette à mon mari? Ah bon, il faut que j'éduque mes enfants? Ah, c'est nouveau. J'espère que vous le saviez. Mais il y a des choses personnelles que Dieu veut vous dire. C'est pour ça qu'il dit, mais oui, vous louez. Oui, vous m'adorez, mais est-ce que vous pouvez, est-ce que vous voulez écouter ma voix? Parce que je crois que c'est une des plus grandes bénédictions que Dieu, par sa parole, nous parle. Et c'est vrai que, moi je sais que souvent je lis, moi ça m'est dur, je ne sais pas vous. Des fois vous lisez, il y a comme un mur, est-ce qu'on pense à autre chose? Et la tondeuse à faire réparer, et puis la voiture à faire aussi. Ça vous arrive jamais de commencer à lire et à prier et l'esprit vagabonde? Est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Est-ce que ça vous arrive des fois? Commencer à prier, tout d'un coup, alors j'imagine la cuisinière, il ne faut pas que j'oublie d'arrêter le rôti qui te fout, mais elle a raison en plus. Mais est-ce que ça vous arrive pas? Moi j'ai un crayon papier, je le marque, hop. Je le marque pour me dégager, parce que ça m'est arrivé de rester un quart d'heure bloqué avec une histoire de d'essuie-glace à changer. Oui, mais c'est normal. Et il ne faut pas s'arrêter là. Je crois qu'il faut arriver, il faut l'écrire peut-être, bon, ne pas oublier l'essuie-glace. C'est des petites choses. Mais je vous le dis pour vous rassurer en même temps. Parce que c'est un combat spirituel. C'est pas quelque chose de... La religion, la religiosité, c'est pas quelque chose d'humain. Et il y en a un qui fera tout pour nous dissuader de prier, dissuader d'écouter sa voix. Parce que quelqu'un à qui Dieu parle, c'est sûr, il va changer. Oui ou non? Si vous me dites que Dieu vous parle et que vous ne changiez pas,
Je vous avoue que moi j'ai des gros, gros doutes. Si le Seigneur vous parle, par sa parole, vous changerez. Et mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à côté de quoi nous pouvons passer par rapport à l'œuvre de Dieu si nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Oui, nous le louons. Et merci Seigneur pour la louange. Elle nous est nécessaire. Mais savoir que Dieu veut nous parler devrait être une source de bénédiction. Oui ou non? Est-ce que vous vous rendez compte? Le Dieu du ciel et de la terre veut te parler. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est pas moi qui l'invente. Je ne sais pas si nous réalisons ce que je suis en train de vous dire. Le Dieu du ciel veut te parler. Eh bien, quelqu'un peut-être va dire, mais qui parle? Écoutez, c'est un peu plus sérieux que ça. Vous comprenez? Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas stupides en disant, ah, mais il a quand même parlé. Monsieur Goua dit que Dieu voulait me parler. Eh bien, qui parle? Je pense que ça nécessite du temps de qualité devant lui. Tu veux me parler, Seigneur? Peut-être que Dieu va vous rappeler un texte que vous connaissez par cœur, mais tout d'un coup, ça va prendre une telle importance que ça va vous bénir. Et dans l'Église, je pense que nous avons besoin de nous bénir les uns les autres. Oui ou non? Vous n'avez pas envie de bénir les autres? Vous vous rendez compte, je le dis maintes fois, ça fait rire déjà, moi ça ne me fait pas trop rire, mais c'est quand même la vérité quand on entend des chrétiens qui disent « moi je préfère l'éviter celui-là parce qu'il me bassine, je préfère l'éviter celui-là parce que ça me saoule, il est toujours découragé, il fait que me décourager ». Oui ou non? Vous avouerez que c'est révélateur d'un problème grave. Parce que quand même, je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fatigue pas les gens. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait du bien aux gens. Pourquoi? Parce que quand on est rempli de Dieu, on ne peut pas ne pas faire du mal, du bien. On ne peut que faire du bien. Et même en se taisant, en disant juste, en prenant quelqu'un par l'épaule, et en lui disant, je prierai pour toi, pour que Dieu te renouvelle. Moi, je l'ai vu au décès de ma mère. Il y a des chrétiens qui sont venus, personne ne m'a parlé. Mais rien que dans leur regard, il n'y a que Dieu qui sait le bien que ces gens m'ont fait. Vous, quelques-uns parmi vous. Oui, Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des reproches, mais il peut avoir un reproche, mais il peut avoir une promesse à vous communiquer. Il n'y a pas que des reproches à nous faire. Oui, Dieu peut avoir des reproches, Dieu peut avoir des conseils, Dieu peut avoir des paroles sévères, mais Dieu a aussi des paroles de bénédiction. Vous croyez que Dieu a des paroles de bénédiction? Mais bien sûr, Dieu parle et nous devrions écouter. Quelle bénédiction! Alors, nous avons traversé en 2013, on n'est pas là parce qu'on n'a pas eu de preuves, on est là parce qu'on a persévéré. On n'est pas là parce que, tiens, moi je suis là, je suis fidèle, Dieu m'a épargné. Non, Dieu peut nous avoir épargné certains trucs, c'est sûr, puisqu'on lui demande « délivre-nous du malin ». Mais Dieu a pu permettre des épreuves que nous avons traversées ensemble. Oui, Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Alors il y a des chrétiens qui sont défaits, complètement défaits, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, aujourd'hui, parce que c'est quand même, ça revient autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de clair, aujourd'hui. C'est là le problème. Et beaucoup de gens, je le répète, on m'a dit, ah ben moi quand ça ira mieux, on verra, oui, je resservirai le Seigneur. C'est un faux problème. Je pense qu'on doit faire ce que Dieu nous demande. Parce que si chaque fois qu'on a des difficultés, par exemple, eh bien on disait, bon moi je ne prêche pas dimanche parce que j'ai eu des difficultés la semaine, ça arriverait qu'il y ait des dimanches où nous ne prêcherions pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah moi je ne vais pas prier, je ne vais pas à la prière, je suis fatigué. Eh bien moi si je ne venais pas prêcher chaque fois que j'ai été fatigué, je peux vous dire que ça me serait arrivé de ne pas venir. Mais par contre j'ai expérimenté que quand on est fatigué et qu'on fait ce que Dieu nous demande, vous l'avez déjà vécu certains, Dieu vous renouvelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que Dieu est sage et Dieu n'est pas injuste pour ne pas honorer le travail que nous faisons pour lui de tout notre cœur. Oui, bien des choses changeraient si à la place de nous entêter, nous nous asseyions comme Marie et nous disions Seigneur, ou comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur, écoute, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Est-ce que vous savez que Dieu a une parole pour vous aujourd'hui? Alors il se peut, si Dieu m'a inspiré, que Dieu vous la dise au travers de mon ministère. Mais il se peut aussi que Dieu tienne à vous la dire d'une manière personnelle, peut-être ce soir, dans votre studio, dans votre salon, dans votre chambre, je ne sais rien, où que vous voulez de toute façon. Mais peut-être que vous feriez une belle expérience de terminer cette année en laissant Dieu vous donner une parole qui va vraiment vous bénir. Apprendre à
écoutée maintenant. C'est écrit aujourd'hui. Chaque jour qui passe, chaque jour de retard, eh bien, est un jour qui nous endurcit. Voilà pourquoi des chrétiens rétrogrades. Vous avez compris, mes frères et sœurs. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Il n'est pas dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, eh bien, attendez au lendemain. N'endurcissez pas votre cœur. Chaque jour qui passe où nous ne voulons pas écouter la voix du Seigneur est un jour qui nous éloigne de Dieu, est un jour qui nous endurcit, et est un jour qui, qu'on le veuille ou non, nous amènera à la défaite. C'est pour ça qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens rétrogradent. Ça n'a rien à voir avec le pasteur, quoique le pasteur peut apporter la pensée de Dieu et faire du bien à l'Église. Mais je pense que quand ils sont sortis d'Égypte, moi je trouve qu'ils avaient un bon pasteur. Est-ce qu'ils avaient un bon pasteur quand ils sont sortis d'Égypte? Oui. Est-ce que les 12 apôtres avaient un très bon pasteur? Ça n'a pas empêché Judas. Non, ne riez pas. Ça n'a pas empêché Judas de choisir le mal et de se suicider. Pourtant, quel pasteur n'avait-il pas? Vous ne croyez pas que Judas avait un bon pasteur? Le grand berger. Celui qui aurait pu le délivrer à n'importe quel aujourd'hui qu'il a traversé avec Jésus, eh bien, il est resté recroquevillé dans son péché. Il aimait l'argent et l'argent l'a tué. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et chaque jour qui passe, si Dieu le dit, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est pour ça que nous devrions quand même être beaucoup plus sérieux. Et de la même manière, comme Jérôme le disait dans sa prière, que nous soyons notre corps. Et franchement, je suis sûr que déjà pour midi, certains ont programmé le rôti et tatatitatata. Et oui, eh oui, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit bien prêt, etc. Mais moi, je suis pas contre ça. Moi, j'apprécie aussi quand les choses sont bien. Mais franchement, vous ne croyez pas qu'on pourrait prendre un peu plus soin de notre âme, hein? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En 2014, il y a la nouvelle année qui s'ouvre. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais bon, il y a de chances qu'on y arrive. Si on arrive en 2014, hein, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans ta maison, quelle est ma place? Dans mon foyer, est-ce que je suis le mari que je devrais être? Est-ce que je suis l'épouse? Est-ce que je suis le papa, la maman? Est-ce que je suis le frère? Est-ce que je suis le pasteur, pour moi, que je devrais être dans l'Église, ainsi de suite? Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut absolument que nous soyons sérieux avec le aujourd'hui. N'attendez pas que les choses changent. Ne dites pas, bon, quand ça ira mieux, je le ferai. Les gens qui parlent comme ça ne font plus jamais rien. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'endurcit sans même s'en rendre compte. De la même manière que plein de gens sont en enfer. Parce que quand ils ont entendu Dieu les appeler, ils ont dit, on verra quand on sera vieux. Et quand ils étaient vieux, ils n'avaient pas compris que leur cœur serait complètement endurci. Et il y a des gens, vous leur parlez du Seigneur, oui, quand j'aurai 60 ans. Quand j'aurai 60 ans, je me convertirai. Quand j'aurai 80 ans, je me convertirai. Et quand ils arrivent à 60 ans, leur cœur est d'une dureté, ils ne croient plus au pardon. Parce qu'ils se sont endurcis. Alors on dit, oui, je suis sûr que tous allez me dire, mais monsieur Gou, vous avez raison. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai pour les chrétiens aussi. Qui, une fois qu'ils sont rentrés dans le royaume de Dieu, n'ont pas pris le temps de veiller à ce fameux aujourd'hui. Et l'exemple que le psalmiste prend est terrible. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre reprend le même exemple de cette pérégrination dans le désert, où ils ont préféré écouter la voix des 10 espions qui disaient « Oui, on n'y arrivera pas », alors qu'il y avait Josué et Caleb qui disaient « Oui, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs ». Et eux, ils étaient dans un bon état d'esprit, et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'Église, il y a des gens qui sont dans un bon état d'esprit, oui, nous aurons la victoire, qui croit qu'il y aura la victoire si nous nous levons, si nous combattons, si nous prions de bon cœur, qui croit à la victoire de l'Église? Vous croyez à la victoire de l'Église? Oui, il y aura des vainqueurs, c'est clair. L'Apocalypse termine avec chaque lettre termine avec un avertissement ou une instruction, comme vous voudrez. En tout cas, pour moi, c'est un avertissement à celui qui vaincra. Il y a des gens qui vaincront parce qu'ils diront « Oui, mais moi je vais m'appliquer. J'ai négligé l'aujourd'hui, je me contente du dimanche matin, je pensais que ça suffisait. » Pour certains, il y en a qui arrivent. Le dimanche, hop, c'est comme si on mangeait que le dimanche. Vous voyez? Bon, je pense qu'on arriverait à vivre. Bon, ce ne serait pas épais, mais on y arriverait. Je pense si on mangeait qu'une fois par semaine. Bon, mais voilà, beaucoup de chrétiens, spirituellement, hop, ils passent leur vie d'un dimanche à l'autre. Ils sont...
ils sont maintenus. Mais c'est un jeu très, très, très dangereux. Nous pouvons résister à la volonté de Dieu. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des contrariétés. Mes frères et sœurs, ne regardons pas à ces choses. Regardons à ce Seigneur qui nous dit, aujourd'hui, si tu veux écouter ma voix, tu entendras. Mes frères et sœurs, je vous assure, Dieu veut vous parler. Vous le croyez ? Dieu veut que les chrétiens soient en paix. Oui, je dis à l'Éternel, je le lui dis, tu es mon refuge. Voilà, parce que ce que vous dites aux autres, c'est bien. C'est bien, vous pouvez dire, oui, Dieu est mon refuge. Moi, je peux vous dire, je suis le pasteur de l'église, je suis presque obligé. Oui, vous avez compris. Je suis presque obligé de vous dire, oui, Dieu est mon sauveur, Dieu est mon refuge. Mais, voyez, entre ce que l'on dit, ce que l'on dit aux autres, et ce que l'on vit vraiment, quand vous pouvez dire, je dis à Dieu, tu es mon refuge, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que vous avez écouté la voix du Seigneur. Quand David, tout le peuple d'Israël disait, l'Éternel est mon berger. Est-ce que Dieu était le berger d'Israël ? Oui. Mais il n'y en a qu'un qui a pu dire, l'Éternel est mon berger. Et quand il s'est trouvé dans la bagarre, dans la grosse bagarre, tout le peuple d'Israël, qui aurait dû être des soldats aguerris, était paralysé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on n'écoute pas la voix de Dieu, les gens ne prient plus, les gens ne combattent plus, et les gens, sans s'en rendre compte, ne font plus l'œuvre de Dieu. Et on tourne en rond, on souffre, et il faut que des David se lèvent, parce que je suis persuadé que si on écoute la voix de Dieu, on saura ce qu'on a à faire. Il n'y aura pas besoin qu'on vous dise, venez faire aussi, investissez-vous dans l'église, investissez-vous, moi je ne le fais pas, ça, je ne veux pas le faire, parce que pour moi c'est charnel, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Je pense vraiment que chacun, quand il se tient devant Dieu, saura exactement ce à quoi Dieu l'appelle. Si Dieu vous appelle au ministère, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas lutter des années, vous le saurez de suite. Vous le saurez vite, je sais de quoi je parle à ce niveau, quand Dieu veut vous parler, il vous parle. Mais ça nécessite que l'on s'arrête. Qu'on s'arrête le temps qu'il faut. Vous vous souvenez ce conseil à la Odyssée ? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. De l'or, ça ne fond pas en 3 minutes. De l'or, il faut parfois des heures pour le faire fondre et pour arriver à enlever les scories. Alors Seigneur, je veux apprendre à t'écouter aujourd'hui. C'est pas, aujourd'hui c'est les fêtes, demain ce sera la fatigue, parce qu'il y a tata Gabriel qui est venu, après demain c'est Pépé qui vient, etc. Écoutez-moi, je pense que quand on veut quelque chose, on prend le temps de le faire. Si tu pouvais écouter ma voix, tu tournerais plus en rond. Si tu pouvais écouter ma voix, tu ne serais pas dans le désert en train de râler tout le temps. Vous avez vu, je ne prends pas le texte, c'est le retour, et vous avez vu murmurer, il râler. Quand on a le désert, normalement, tous les voyants rouges, c'est ça. On murmure, on n'est pas content, et on râle contre si, et on râle contre... Ils murmurèrent, vous voyez, ils me tentèrent, ils ont un cœur égaré. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Dès qu'on est endurci, on râle. Vous le savez, si vous êtes endurci. Est-ce que vous râlez ? Allez, répondez pas. Mais quand même, ils ont murmuré à cause du manque d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Vous savez, le Seigneur voulait leur apprendre certaines choses. En ce moment, peut-être que vous manquez. Est-ce que ça peut arriver ? Bien sûr qu'on peut tous dire, je ne manquerai de rien. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que Dieu peut permettre que nous manquions de certaines choses pour nous apprendre certaines leçons ? Bien sûr. Et c'est là que Dieu nous éprouve. Bien sûr que Dieu n'allait pas les laisser là, dans le désert, à souffrir de la faim. Bien sûr que quand ils arrivent à une source d'eau, youpi, il y a de l'eau, paf, elle est amère. Mais quelle expérience. Peut-être que quelque chose est amer en ce moment. Eh bien, mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, j'accepte l'amertume. Et vous savez, quand M. Roussel est venu l'autre jour prêcher, il a fait allusion à un beau texte du Cantique des Cantiques. Et le lundi soir, je me dis, tiens, tu vas le relire, parce que ce n'est pas un livre que je lis souvent, le Cantique des Cantiques. Et je suis tombé sur ce texte. Oui, c'est pour vous dire comment Dieu peut parler. J'allais aller me coucher, je me dis, tiens, tu vas lire une petite demi-heure. Et je suis tombé sur ce texte, d'ailleurs, je vais en faire une prédication. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé, si vous saviez le bien que ça m'a fait. Qui est celle ? Oui, c'est une question. Mais quand même, ça suffit.
Mais moi, ça m'a fait... Je l'ai lu 50 fois, le livre des Cantiques. Oui, au moins 50 fois. C'était la première fois que je lisais ce verset avec mon cœur, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Et je peux vous dire que désert devant ou désert derrière, bon, c'est sûr quand il est mieux derrière, c'est mieux quand il est derrière. Là, il est derrière. Mais justement, il est derrière parce qu'on s'est appuyé sur le bien-aimé. Et vous voyez, c'est facile de dire, le Seigneur, mais mon berger, il me conduit dans les sentiers, de la... mais il ne vous conduit pas. Si on n'est pas appuyé sur lui, ne me dites pas qu'on est conduit par Dieu. C'est ridicule. C'est stupide. Quand il me conduit, quand je suis appuyé sur lui, il me sortira du désert. Je ne sais pas le temps que ça durera, mais il m'en sortira. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Aujourd'hui, si on pouvait écouter sa voix, si des fois on avait le bon sens. Vous avez vu comment c'est agréable de prendre une heure ou deux pour manger un bon foie gras, une bonne volaille farcie. Franchement, vous ne l'avez pas apprécié? Vous n'avez pas apprécié de la bonne nourriture, un bon vin blanc? Ne faites pas les spirituels. Hein. Vous n'avez pas apprécié? Sérieusement, vous n'avez pas apprécié? Vous avez vu, moi j'ai vu ma femme, elle a passé toute la journée dans la cuisine. Toute la journée. Et le soir, quand je ne l'ai pas vue dans la cuisine, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Toute la journée, pour qu'on ait un bon repas d'une heure, une heure et demie. Toute la journée. Toute la journée. Mes frères et sœurs, je ne sais pas le temps que Dieu va vous demander, mais ce n'est pas possible. Si on passe du temps dans ta présence, il y a une parole, un verset, un commandement, un reproche, qu'importe. Mais Dieu vous parlera. Si vous pouviez, si vous vouliez, Dieu vous parlerait. Et je vous assure que nos réunions en seraient profondément bénies. Toutes nos réunions d'évangélisation, de prière, nos cultes. Quand on vient au culte à la bourre, qu'on s'est levé à la bourre, tout ça, c'est sûr que ça amène que des gens qui dorment à moitié. Mais quand on a pris le temps d'écouter Dieu, on peut donner quelque chose aux autres. Alors fermons les yeux, demandons au Seigneur qui nous aide. Il le fera, vous le savez qu'il le fera. Prions simplement. Ne laissons pas les activités, les fêtes, le travail, la retraite, la santé, je ne sais pas, ou la maladie. Ne laissons pas ces choses nous empêcher d'écouter notre Père. Mes frères, mes sœurs, je vous le répète, Dieu vous a donné un libre arbitre. Il ne vous obligera pas. Il ne nous obligera pas. Il ne nous forcera pas. Un jour, je me suis levé pour arrêter quelqu'un qui priait, qui disait, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Et j'étais lui dire, je suis désolé, cette prière, Dieu ne l'exaucera pas. Dieu ne vous forcera pas. Et c'est vrai. Ne vous imaginez pas que Dieu va vous forcer. Vous a créé libre et vous êtes libre. Et si vous voulez qu'il vous parle, vous prendrez du temps. Et par sa parole, Jésus vous parlera. Notre Père, nous te remercions de nous avoir gardés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, nous te sommes reconnaissants. Les années ont passé, les décennies ont passé, et nous avons l'immense joie d'être toujours dans ta maison. Vraiment, Seigneur, vraiment, c'est le plus beau don que tu aies pu nous faire. Mais ta parole nous rappelle que nous pouvons tous entendre ta voix. Tu peux par ta parole nous fortifier, nous relever, nous guérir. Et c'est ce que tu vas faire, Seigneur. Et nous te prions pour ce pays, pour toutes les églises de ce pays, afin que tous les chrétiens nés de nouveau s'appliquent à entendre ta voix. Merci, Seigneur Jésus. Vraiment, bénis cette assemblée. Tu vois, les gens seuls, donne-nous vraiment, mardi soir, de pouvoir les accueillir. Donne-nous d'être plein d'affection, plein d'amour, plein de foi. Oui, Seigneur, donne-nous d'entendre ta voix afin que nous puissions faire du bien aux autres. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.